remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, en direct pour notre dernière émission de l'année avant les vacances, puisque la semaine prochaine, eh bien, vous entendrez des rediffusions des meilleures émissions de toute cette année, aussi bien de Remue-ménage que de Radio Pleine Lune. Et oui, nous prenons des vacances, comme vous tous et vous toutes, nous l'espérons. Aujourd'hui, notre dernière émission et nous en sommes très heureuses de vous annoncer le contenu qui est celui que nous espérions. Rappelez-vous, la semaine passée, nous vous exprimions notre désir d'avoir sous nos ondes en direct Laurence Deonna. Eh bien, c'est chose faite. Laurence, bienvenue et merci infiniment d'être venue ce mercredi. Alors, Laurence revient de voyage, comme elle vous dit, du Yémen où elle a passé 2 semaines. Et donc, nous parlerons à la fois de ce qu'elle a découvert ou redécouvert pendant ce voyage et ce qu'elle a compris de la situation de ce pays après les événements de la guerre du Golfe. Et puis, nous aborderons bien sûr ce pourquoi nous l'avons fait venir. C'est son livre « Mon enfant vaut plus que leur pétrole » qu'elle a écrit aussi suite aux événements de la guerre du Golfe. Mais alors, je vous propose que nous partions pour le Yémen, même si nous allons revenir à Genève très vite, mais histoire de vous mettre dans l'atmosphère musicale de ce beau pays. Laurence Deonna est donc avec nous pour cette dernière émission en direct dans Remue-ménage, Radio Zone 93.8. Laurence, vous rentrez tout juste hier du Yémen. Qu'est-ce que vous êtes allée faire au Yémen? Je crois que peut-être nos auditrices et nos auditeurs ne savent pas qu'en fait vous travaillez très solidement au Yémen depuis longtemps déjà, entre autres par rapport à un projet de sauvegarde de la ville de Sanaa.
Écoutez, le Yémen, c'est un de mes grands amours. J'ai écrit un livre sur le Yémen et j'y suis allée en fait dans les années 70, en tout premier, où c'était encore un pays qui était biblique. On avait l'impression qu'on marchait dans la Bible, tout simplement. Il n'y avait pas de route, il n'y avait point à dire rien. Et j'avais été fascinée par ce pays. Si fascinée que quand l'UNESCO m'a demandé de m'en occuper, c'est-à-dire d'essayer de récolter de l'argent pour sauver cette ville babylonienne, ces mille et une nuits qu'est la ville de Sanaa, avec ces espèces d'étages, de maisons en étage avec du stuc qui couse le ciel vraiment. C'est vraiment le rêve d'ailleurs, les mille et une nuits d'Antonioni avaient été tournées là-bas, de Pasolini, pardon, avaient été tournées là-bas. Alors je me suis enthousiasmée et je suis retournée à Sanaa. J'ai décidé qu'effectivement j'allais récolter de l'argent pour l'UNESCO qui l'a classé parmi les merveilles du monde. Et j'ai créé un comité suisse et dont le président de la Confédération, M. René Felbert, m'a fait l'honneur de faire partie du comité d'honneur, ainsi que Sadruddin Aga Khan. J'ai réuni un comité plus actif, fait de banquiers suisses, d'hommes d'affaires, d'hommes d'affaires yéménites aussi, dont certains ont fait fortune en Arabie saoudite, mais ont laissé leur cœur au Yémen, et qu'au fond sont très contents de pouvoir, à travers la Suisse, sans problème politique, verser l'argent pour aider à rénover, à garder vivante leur ville. Et nous avons finalement choisi notre comité, un caravansérail, qui fait rêver aussi. Il est très détruit, mais il est un des plus anciens de la péninsule arabique. Comme vous savez, les caravansérails, c'est là où les caravanes s'arrêtaient. Et en fait, c'était une sorte de banque où les bédouins ou les hommes de tribu déposaient leur argent. Ça s'appelle d'ailleurs la maison de l'argent. Et nous voulons lui rendre sa vie. Il est au cœur du souk, il est l'artère de la vie de Sanaa.
Parce que la ville de Sanaa, Laurence, est très détruite. On a toujours des images de rêve. D'ailleurs, vos photos ont contribué à nous donner cette image de Sanaa, ville de rêve.
Je crois que les Yéménites pourraient vraiment me remercier. J'en ai envoyé des gens au Yémen. Oui, d'apparence, effectivement, les murs sont toujours là. Ils sont toujours debout. Mais il faut dire qu'il y a 6000 maisons-tours à Sanaa. Donc sur ces 6000, il y en a au moins les deux tiers qui sont encore en apparence en bon état. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le modernisme, entre guillemets, les riches yéménites qui avaient fait construire ces maisons, parce que c'était des vrais palais, ont trouvé qu'au fond, il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas de rue pavée, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'égout, et qu'au fond, avoir une villa moderne hors de la ville, c'était plus confortable. Et ce sont des gens, au fond, pauvres qui se sont mis dans ces maisons, qui n'avaient pas les moyens de l'entretenir. Et alors, elle a commencé à se dégrader. Et c'est justement ce que nous voulons essayer de sauver, c'est de rendre la vie à cette ville. Nous ne voulons pas qu'elle devienne un musée ou bien un repère de fonctionnaires, traîne sa vatte, un ministère de plus. Comme d'ailleurs je l'ai vu en Union soviétique, par exemple, en Asie centrale, où vous voyez des sites absolument merveilleux, justement, mais qui sont devenus des décors de films. D'ailleurs, c'est là que le film soviétique se tournait. Il n'y avait plus de vie. Et nous voulons garder la vie. Mais effectivement, de loin, si vous voulez, le rêve est toujours là. Et je suis heureuse que pendant la guerre du Golfe, on n'ait pas bombardé Sanaa. C'était un peu mon cauchemar. Parmi beaucoup d'autres cauchemars, c'était mon cauchemar. S'il me bombarde mon Sanaa, ce sera terrible.
Parce que effectivement, quand vous connaissiez bien ce pays, vous aviez écrit un livre qui s'appelait Le Yémen que j'ai vu, c'est ça, écrit en 1982. Et donc, c'est un engagement depuis longtemps que vous avez dans cette région du monde, de toute façon, que c'est dans tout le Moyen-Orient. Et quand vous retournez dans ce pays, vous retournez dans plein d'endroits que vous connaissez déjà. Quand vous allez pour une raison bien précise comme celle-ci, est-ce qu'il y a comme ça des endroits où vous savez que vous pouvez retourner? C'est des gens, des femmes que vous rencontrez, des hommes, des familles, et qu'à chaque étape, vous pouvez rencontrer à nouveau et vous sentir un petit peu petit à petit chez vous?
Ah oui, l'hospitalité yéménite est immense, comme d'ailleurs toujours au Moyen-Orient. Et évidemment, je retrouve des images que j'avais photographiées autrefois, je retrouve des sites qui ont parfois un petit peu changé. Mais je trouve étrangement, comme écrivain, au fond, c'est quand même toujours quand on écrit, quand on se souvient, la toute première impression. Et pas seulement pour le Yémen, ça me frappe toujours. Chaque fois que j'ai écrit sur un pays, c'est que, même si j'y suis retournée après, c'est toujours le premier flash, les premières odeurs, la première poussière qui revient alors qu'il faut en parler. et j'ai retrouvé le Yémen avec joie. Mais si je vais vous redécrire le Yémen, ce sera mon premier Yémen probablement dont je vous parlerai. Ceci dit, j'ai retrouvé effectivement beaucoup d'amis et notamment des femmes yéménites, dont certaines que j'avais connues, disons débutantes entre guillemets dans le féminisme, qui commençaient comme une fille que j'avais rencontrée, toute jeune journaliste, et qui faisait la révolution vu qu'elle avait un éditorial dans un journal et que... aux révolutions des révolutions, elle avait même en médaillon sa photo, ce qui est une chose absolument extraordinaire dans un pays où les femmes doivent aller voiler, ne doivent pas être photographiées, etc. Surtout dans cette région, en tout cas là, la région de Sanaa. Eh bien, j'ai retrouvé mon amie Raoufa, ayant fait des études à Paris, parlant français comme vous et moi, ayant été en Amérique, ayant créé toute seule maintenant une division de cours de journalisme audiovisuel où elle enseigne à 50 jeunes garçons en admiration devant elle. Et ça a été une sororité extraordinaire, une joie folle. Chaque fois que je retrouve cette immense sororité, ce filet, cette chaîne de femmes à travers le monde, je trouve que ça fait toujours beaucoup de bien à elle et à moi. Parce qu'elles sont un peu partout, ces femmes qui luttent, comme nous luttons tous les jours.
Le Yémen, comme tous ces pays, tout en étant une image de rêve pour beaucoup de gens, vit une modernisation tous les jours, j'imagine, et qui doit peut-être transformer cette image de rêve que vous avez eue il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il en est ?
Bien, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça, au fond, que le Yémen m'avait aussi fascinée, parce qu'il était vraiment le laboratoire du choc des cultures. Et je crois pouvoir dire un laboratoire unique au monde, vu que c'était vraiment un choc de culture. J'entends le Yémen, depuis, il y a du temps de la reine de Saba, depuis 3000 ans, avait une civilisation fabuleuse. Et ce n'est pas comme un choc de culture où j'allais chez les pygmées, vous voyez ce que je veux dire. Et tout à coup, ce pays qui était resté complètement enfermé par un imam qui le gardait dans une ignorance inimaginable, s'est trouvé projeté dans le XXe siècle. Alors justement, il y en a maintenant évidemment des retombées assez tristes, il y a beaucoup de saleté, ce qu'il n'y avait pas avant. Beaucoup de rues sont pavées, non pas de beaux pavés, mais de boîtes de conserve. Mais il faut dire une chose, c'est que les Yéménites, je pense certains, en tout cas certains, je dirais pas mal d'entre eux, se rendent compte qu'ils ont un trésor immense et une civilisation extraordinaire et sentent qu'il ne faut pas que le Yémen devienne un deuxième Miami à la façon d'Arabie Saoudite. Ils ressentent ça viscéralement et ils sont horriblement tristes aujourd'hui de voir qu'après la guerre du Golfe, après la position qu'ils ont eue pendant la guerre du Golfe, qui comme vous le savez, c'est le seul pays de la péninsule qui ne s'est pas engagé du côté américain et du côté des alliés, et bien de se rendre compte que les émirs des pays du Golfe, comme le Koweït et d'autres, Qatar et les autres, qui leur avaient promis justement de les aider pour Sanaa. Parce que, mon Dieu, il y a 3000 ans, la péninsule n'était pas des nations comme aujourd'hui des États. Et de se dire que ce Sanaa, qui était quand même le joyeux, le corps, le cœur et la mémoire de la péninsule, il voulait donner, aider. Eh bien, après la guerre du Golfe, le Yémen ne reçoit plus un sou, comme il ne reçoit d'ailleurs quasiment plus un sou d'aide internationale, vu que un milliard de dollars qu'ils devraient recevoir de l'aide américaine, notamment, ils ne le reçoivent plus, qui représente 85% de cette aide. Donc, ils payent très, très cher leur non-engagement au côté américain durant la guerre du Golfe. De plus, ce que j'ai découvert avec tristesse, c'est de voir que ce pays, en plus, devait se charger de près d'un million de réfugiés yéménites, vu que tous les yéménites qui travaillaient en Arabie Saoudite au moment de la guerre du Golfe, faisant partie du pays traître, entre guillemets, ont été chassés d'Arabie Saoudite. Et puis vous avez aussi autour de la mer Rouge tous les yéménites qui vivaient de l'autre côté de la mer, qui vivaient en Éthiopie, qui vivaient en Somalie, où il y a la guerre, comme vous le savez. Souvent depuis des générations, ces gens-là sont revenus. Djibouti, vous avez aussi la guerre, sont aussi revenus. Et ce pays, non seulement à des problèmes économiques que je viens d'exposer après la guerre, mais en plus, beaucoup de réfugiés qui arrivent.
Parce que ça, c'est une découverte que vous avez faite lorsque vous vous êtes promené, entre autres, dans une partie du Yémen que vous ne connaissiez pas encore, qui est le Yémen du Sud, puisqu'aujourd'hui, il est possible d'aller dans les deux parties sans problème, depuis qu'elles ont été réunies en un seul et même pays.
Voilà. Oui, il faut rappeler que le Yémen, les Yéménites n'ont jamais rien pu faire comme les autres. À travers l'histoire du Yémen, vous avez eu des rois, pour en montrer très loin, des rois chrétiens et des rois juifs. Alors que tout autour d'eux, vous aviez des animistes avant l'islam. Ensuite, dans cette péninsule où il n'y avait que des potentats, et il y en a d'ailleurs toujours, ils ont opté pour la République, deuxième anomalie étrange dans cette région. Et ce désir de République s'est scindé en fait en deux en 1967, quand les Anglais ont quitté la région. La moitié du Yémen, celle qui est tournée vers l'océan Indien, vers Aden, était devenue communiste. Et l'autre, celle du Nord, qui était beaucoup plus retranchée dans les montagnes, avait gardé un système d'économie libérale. Et alors il est arrivé au moment de la chute du mur de Berlin, de la chute du communisme, ce qui est arrivé dans tous les pays ex-communistes, c'est qu'ils se sont écrasés, eux aussi, avec Moscou. Quand Moscou est tombé, les autres sont tombés. Et très vite, les deux Yémen ont décidé, un peu comme les deux Allemagnes, de se réunir. C'était il y a 2 ans, au printemps. C'était aussi une union très courageuse, parce que c'était très difficile. Il y avait non seulement un socle de culture idéologique, encore que très superficiel, c'est toujours les tribus qui règnent là-bas, mais avoir tout à coup 2 monnaies, 2 armées, 2 systèmes politiques, ça a été vraiment une gageure. Et en plus, la guerre du Golfe est venue se mettre là-dessus. Donc vraiment, ils font face à beaucoup de problèmes à la fois.
Puis, je ne sais pas, très concrètement, dans la vie de tous les jours, on voit dans le Yémen du Sud des choses différentes de ce que vous avez pu vous connaître depuis longtemps dans le Yémen du Nord. Il y a des choses frappantes comme ça dans la vie quotidienne.
Mais écoutez, il y a encore quelques colombes de la paix, quelques joyeux travailleurs avec une serpette dans la main, un fusil dans l'autre, des slogans. Et puis Aden, pour moi, a été une découverte quasiment littéraire. Je me disais, j'avais envie d'écrire un roman. On a l'impression que depuis 67, depuis que les Anglais sont partis, le temps s'est arrêté comme à Pompéi. Vous avez toujours Big Ben, la copie de Big Ben qui s'est arrêtée avec son aiguille, tout à fait, quasiment le jour où les Anglais sont partis. Vous avez encore la prison des Anglais, donc des colonisateurs, qui est toujours là. Et vous avez des maisons qui tombent en ruine dans cette moiteur étrange. Il paraît que quand on entre dans certaines villas abandonnées, il y a encore les robes de bal de ces dames qui sont dans les armoires. Les armoires, ouais. Quant aux fonctionnaires, vous avez l'impression que vous marchez dans un roman. C'est vraiment, vous savez, les pales au plafond dans l'air épais et humide. Le type qui s'éponge le front, le fauteuil avec un vieux ressort. C'est vraiment un décor absolument extraordinaire. Mais ce qui est beaucoup plus tragique, c'est de voir ce qui est dans ce décor et ce que j'ai découvert justement par pur hasard en me promenant le long de la mer. Un jour où il faisait presque 50 degrés de chaleur et 100% d'humidité, ce sont, et je n'en ai vu certainement qu'un tout petit groupe, quelques-uns de ces milliers de réfugiés qui traînent autour de la mer Rouge aujourd'hui, qui sont complètement abandonnés.
Des réfugiés qui sont seulement yéménites, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, ou qui viennent aussi des Éthiopiens et des Somaliens qui fuient la guerre civile dans leur propre pays?
Bien sûr que j'ai découvert étaient des Éthiopiens, des paysans d'Éthiopie, qui ont déjà été chassés. Ils vivaient près de l'Ogaden, où, comme vous le savez, il y a une guerre qui sévit entre Somaliens et Éthiopiens depuis des dizaines d'années, qui ont été chassés vers la Somalie. Ils sont arrivés en Somalie. Guerre, comme vous le savez, une guerre atroce, et qui d'ailleurs avait lieu parallèlement à la guerre du Golfe, et dont personne n'a parlé, mais quasiment une ligne pendant cette époque-là. Ça, c'est une petite parenthèse. Ils sont arrivés en Somalie, et de là, on les a de nouveau chassés par la guerre. Ces gens ont marché à travers les montagnes, en portant les enfants. Beaucoup sont morts en route, jusqu'à Djibouti. À Djibouti, guerre tribale. Ils retrouvent déjà des milliers et des milliers de réfugiés. On les rechasse encore une fois. Ils se sont mis sur un vieux rafio et ils sont partis. Ils ont échoué à Aden, où ils sont depuis 18 mois, ceux que j'ai rencontrés. Ils sont 500 dans une espèce de vieille piscine abandonnée, crasseuse, avec ces murs qui réverbèrent encore et qui gardent la chaleur intolérable. Presque tous sont malades, beaucoup sont mourants. Beaucoup d'enfants, en plus, ont été brûlés par les bombes. et cicatrise assez mal parce qu'ils n'ont aucun médicament. Et pour moi, c'était un choc terrible de découvrir vraiment ces mouroirs. Et je leur ai demandé, mais enfin, personne ne s'occupe de vous. Et ils m'ont dit, il y a un certain Carlos, ils n'avaient même pas d'une organisation internationale, ils ne savaient même pas laquelle, qui est venue nous voir. Mais c'était il y a très longtemps, et depuis, on est là. Et on ne sait pas où aller, on n'a rien. Ça m'a fait très, très mal. Et j'ai pris l'avion pour Paris en rentrant et arrivé à Roissy. J'ai lu le journal et j'ai vu qu'au même moment, il y avait la foire de l'armement à Paris. Et qu'on était très, très triste parce qu'on avait fait 25% de moins de ventes que l'année précédente.
Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Deona dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et nous évoquons le Yémen, le pays dont revient Laurence, où elle a passé 2 semaines. Laurence, le Yémen, à vous entendre parler, me semble un pays qui vit une situation économique, politique bien différente de celle des autres pays. On n'a pas l'impression des pétrodollars de tous les autres pays, qui se situent apparemment politiquement différemment. Comment on explique cette différence importante? Je crois que beaucoup de gens s'imaginent toute la péninsule arabique croulant sous l'argent et le bien-être. Donc les images que vous venez d'évoquer surprendront sûrement plus d'une personne.
Écoutez, pourquoi le Yémen est différent? Je crois que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, historiquement, il est différent. Il a une longue tradition de civilisation, de pensée, de réflexion. Il a donné des grands écrivains, des grands poètes. Et puis, il n'avait pas de pétrole jusqu'à maintenant, contrairement à ses voisins.
C'est ce qui fait toute la différence.
Et maintenant, le grand problème. Certains yéménites vous diront que c'est un cadeau empoisonné. On a trouvé du pétrole au Yémen. Le problème, c'est qu'on l'a trouvé sur la frontière, entre guillemets, ô combien vague, puisqu'elle est entre deux dunes. Tracé dans un désert gigantesque entre les deux pays, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Les relations entre l'Arabie Saoudite et le Yémen ont toujours été historiquement très tendues et très ambiguës. Je raconterai juste que au moment où de la scission des deux Yémen, l'Arabie Saoudite était vraiment la maman gâteau du Yémen du Nord, qui est une sorte d'état tampon, vu que avoir vous imaginez l'Arabie Saoudite ayant une frontière commune avec un pays communiste. Je veux dire que c'était intolérable, les gens seraient morts. Donc le Yémen du Nord, pendant très longtemps, a profité de cette situation de pays tampon pour recevoir les millions de l'Arabie Saoudite. Mais c'est un pays de gens extrêmement fiers qui, vis-à-vis de ces bédouins saoudiens qui n'avaient, eux, vraiment aucune culture à l'origine, se sentaient extrêmement humiliés. Je veux dire, un peu comme si un Européen, un Florentin, devait aller travailler au Texas.
Ouh,
c'est un peu l'image,
ouais.
Mais elle est assez juste. Donc, c'était des relations aussi d'humiliation. Et pour balancer un peu, pour contrebalancer cette puissance saoudienne, le gouvernement yéménite s'était tourné assez longtemps vers l'Irak, le voisin irakien avec lequel il avait des relations assez bonnes, pour contrebalancer. Il faudrait comprendre aussi que les manifestations pro-Saddam Hussein ou pro-Irak qui ont eu lieu au Yémen, en fait, c'était des manifestations contre les Saoudiens, selon le bon adage que l'ennemi est mon ami, n'est-ce pas ? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Les choses sont souvent très complexes quand on commence à les analyser. Oui, aujourd'hui, on a trouvé du pétrole.
Et c'est donc, comme vous dites, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Non, l'ennemi de mon ami et mon ami.
Exactement.
Mon ennemi, qui a fait que cette prise de position par rapport au Golfe. Et vous évoquiez tout à l'heure vos amis, par exemple cette femme journaliste que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a aussi d'autres femmes qui, en parlant très précisément de l'histoire de la guerre du Golfe, se sont engagées aussi à ce moment-là et qui avaient participé à cette action dont vous parlez dans votre livre et que nos éditrices connaissent déjà un petit peu puisque nous l'avons évoqué la semaine passée, qui est le fameux bateau de la paix qui a fait le trajet depuis Alger jusqu'en Irak. Alors là, vous les avez rencontrées à nouveau au Yémen.
C'est-à-dire que je n'avais jamais rencontré les Yéménites. Parce que pour écrire mon livre, j'avais choisi, enfin un peu au hasard d'ailleurs, trois femmes qui étaient sur le bateau de la paix. Je laisse l'électrice future découvrir un peu ce que ça a été de ce bateau de la paix, mais je vais quand même juste un petit peu, en quelques mots, rappeler le souvenir de ce bateau. Il est parti d'Alger au début décembre, donc 1990, juste avant qu'elle éclate la guerre du Golfe, vu qu'on la sentait se préparer. Et il était habité par 200 femmes et 15 enfants, et comme je dis, quelques maris et quelques journalistes. Et il fallait. L'idée, n'est-ce pas, c'était de partir, d'aller contre l'embargo des Américains contre l'Irak, qui interdisait donc de livrer du sucre, des médicaments et de la nourriture aux femmes et aux enfants d'Irak, ce qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui, où c'est toujours de plus en plus tragique. Donc, de prendre ce bateau, de longer le Maghreb, de passer le canal de Suez, l'angle de la péninsule arabique, Oman, et d'arriver à Basra. Mais ça s'est révélé un exodus que je raconte dans mon livre, justement.
Alors, ces femmes que vous avez rencontrées au Yémen, elles ont donc suivi ce trajet. Comment elles l'évoquent-elles aujourd'hui ? Parce que ça finira très difficilement et très durement, même si finalement elles aboutiront quand même en Irak, elles devront renoncer à leur chargement. Elles seront carrément attaquées par les marines américains. Ces femmes yéménites ont un souvenir, j'imagine, très marquant de cet épisode.
Oui, je crois que le fait d'avoir, comme vous le savez, vous l'avez lu, elles ont pris donc en marche parce que dans chaque port, il y avait des femmes qui montaient, d'autres qui descendaient. Il y avait des femmes, beaucoup de femmes arabes, mais aussi des femmes américaines, des femmes européennes. Et ces yéménites sont montées à Aden. Et elles ont effectivement subi avec les autres femmes du bateau l'arraisonnement du bateau des femmes, du bateau de la paix par les marines américains d'une violence absolument insensée. Et ce qui, évidemment, ne les a pas rendues beaucoup plus douces vis-à-vis des instigateurs de cette guerre contre Saddam, même si lui-même, en soi, il ne l'adorait pas. Et ça a été pour moi une immense surprise, c'est de retrouver encore des femmes qui étaient sur ce bateau et qui m'ont confirmé, d'ailleurs, un peu tout ce que les autres m'avaient dit. Et évidemment, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans mon livre et ce qui m'a été confirmé par ces femmes-là, c'est que les femmes arabes, elles, avaient une vision assez différente des femmes américaines. La femme américaine qui parle dans mon livre est très pragmatique, elle est très pratique. L'italienne, elle, est beaucoup plus poétique, plus sophistiquée dans la pensée. Et puis l'arabe, alors elle voit ça quasiment comme une guerre sainte, comme s'imagine qu'elle remonte, au fond, qu'elle est une sorte de sœur des femmes du début de l'islam qui se sont battues pour le bien, pour Dieu. Enfin, chacune est montée sur le bateau avec sa mythologie. L'américaine, pour des raisons franchement politiques, parce qu'elle n'est pas d'accord avec la politique américaine au Moyen-Orient depuis toujours, assez pro-palestinienne. Elle l'a d'ailleurs payé cher. l'italienne en tant qu'une pacifiste, comme nous, l'européenne, le sentirions, disons carrément, un pacifisme quasiment philosophique et féministe. Et les arabes, alors, encore une autre forme de paix, parce que après tout, c'était la leur de paix.
Et ces femmes yéménites ont gardé un goût d'amertume de cette aventure, ou au contraire une force qu'elles sont prêtes à réutiliser dans d'autres circonstances?
Bien, je crois qu'elles ont gardé de l'amertume, certainement, vu que, au fond, c'était une immense traversée, c'était un immense courage pour peut-être pas grand-chose. Et d'autant moins que leur courage a été si peu rapporté par les médias, qu'il y avait un mur de silence autour de ces femmes qui, depuis leur bateau, envoyaient des appels désespérés pour qu'on les laisse passer, pour qu'on les laisse passer avec leur chargement purement humanitaire. Mais vous savez, je crois que, pas seulement les femmes, mais beaucoup de femmes, l'adversité les galvanise. Et j'ai ressenti chez ces petites yéménites, parce que c'est une race de femmes toutes petites, toutes menues, et ravissantes, les petites poupées, une force extraordinaire et je crois une volonté qui les a aussi, je pense, anoblies vis-à-vis de leur féminitude, leur féminisme. Enfin, que femmes arabes, elles ont participé à une action, elles n'ont pas été mises à l'écart, elles ont participé à l'histoire. Ça, elles le ressentent très fortement.
Alors nous allons quitter formellement le Yémen et entrer de plein pied dans votre livre, Laurence, mon enfant vaut plus que leur pétrole, dans quelques minutes.